journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Que deviennent les ex-enfants placés à leur majorité? L'accompagnement s'arrête aujourd'hui à 18 ans et certains se retrouvent subitement livrés à eux-mêmes. Un projet de loi veut changer ça. Les députés l'examinent en dernière lecture. Reportage aux côtés des premiers concernés. Au lendemain de son entrée en vigueur, le pass vaccinal provoque-t-il déjà des baisses de fréquentation? Les patrons de salles de sport s'inquiètent. Ils doivent ces dernières heures refuser des adhérents. Dans ce journal aussi, Nicolas Dupont-Aignan en quête de ses derniers parrainages. La Pologne qui entame la construction de son mur anti-migrant. Et puis New York à la fin du 19e siècle, c'est la nouvelle série du créateur de Downton Abbey.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
France Inter.
L'Assemblée se penche aujourd'hui, Alexis, sur le sort des enfants placés.
Et sur un système régulièrement critiqué pour ses défaillances. Améliorer la protection des mineurs de l'aide sociale à l'enfance. C'est donc l'ambition d'un projet de loi que les députés doivent voter en dernière lecture. Il interdit l'hébergement des mineurs dans un hôtel, veut en finir avec la séparation des fratries quand c'est dans l'intérêt des enfants. Mais surtout, le texte prévoit un accompagnement systématique au-delà de 18 ans pendant quelques années pour éviter la fin brutale du suivi de ces enfants le jour de leur majorité. C'est ce qu'expérimente déjà une structure parisienne. L'association Déclic loge les jeunes jusqu'à leurs 21 ans. Et ça change tout, Manon Vautier-Cholet.
Au bout de la table, Moustapha, 20 ans, termine son repas. Pris en charge pendant près de 2 ans à l'aide sociale à l'enfance, il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain.
À 18 ans, on me dit de partir. On me dit que là, je vais me débrouiller tout seul, ça y est. Premier jour. Deuxième jour, troisième jour, après ça suit, je suis resté un an dehors. Je pouvais mourir.
Après avoir vendu de la drogue pour survivre, le jeune homme entre à Déclic. Sylvain Cousseau dirige la structure, l'une des rares qui accueille les jeunes majeurs à Paris.
Ils doivent travailler, trouver un emploi, gérer un budget, s'acheter à manger, être gentils avec leurs voisins. Tout ce qui fait qu'ils peuvent entrer dans la vie adulte de manière la plus classique.
En un an, Moustapha a pu avoir son bac et veut passer son permis pour faire de l'immobilier. Impossible à réaliser tout seul, dit Laetitia, éducatrice spécialisée.
Les jeunes, ils sont censés être responsables, autonomes, alors qu'ils ne peuvent pas l'être à 18 ans. Et ces jeunes-là, ils n'ont aucun soutien.
Alors faut-il les accompagner systématiquement après leur majorité? Bien sûr que oui, répondent Moustapha et Laetitia.
J'aurais été prise en charge à 18 ans, j'aurais pas fait les trucs que j'ai fait, tu vois. J'ai rien, moi. À part Déclic.
Vous, idéalement, vous voudriez qu'on puisse les suivre jusqu'à quel âge? 21 ans, 25 ans, plus?
25 ans, oui, ça serait parfait pour ces jeunes-là.
Mais plus qu'une loi, les acteurs de la protection de l'enfance attendent des financements pour mettre en place toutes ces mesures.
Et si cette loi est votée aujourd'hui, cet accompagnement au-delà de 18 ans passera notamment par la garantie jeune. Les majeurs sortant de l'ASE seront aussi prioritaires pour un logement social. Mais vous l'entendiez, cela va coûter de l'argent, d'où l'inquiétude des départements en charge de cette protection de l'enfance. Le gouvernement leur promet une première aide de 50 millions d'euros. En Occitanie, l'agence régionale de santé diligente une mission d'inspection après 2 fugues successives d'un hôpital psychiatrique toulousain. 2 hommes internés à la suite de meurtres se sont échappés coup sur coup avant d'être rattrapés ces derniers jours. Mais entre-temps, l'un d'entre eux, surnommé le cannibale des Pyrénées, a agressé une vieille dame dans la rue avec un bâton.
Près de 400 morts, il est 7h33, 400 morts du Covid, Alexis, recensés ces dernières 24 heures à l'hôpital.
Et même s'il y a probablement un rattrapage lié au week-end, c'est un record pour cette vague de contamination. Non, l'épidémie n'est pas terminée. Pour la contrer, le gouvernement mise toujours sur le pass vaccinal, en vigueur depuis 24 heures maintenant. Comment s'est passée cette première journée? Thomas Giraudeau s'est rendu dans une salle de sport parisienne où les effets du pass se font déjà sentir.
D'habitude, on entend ici le roulement des tapis de course, mais là, il n'y a que de la musique en fond sonore. À peine 3 habitués sont en train de transpirer. À l'accueil, une des employées, Stécia, a déjà dû empêcher l'entrée d'un client, faute de pass vaccinal.
Il y a une personne qui est arrivée en présentant un pass vaccinal. Le pass était bien valide, sauf que ce n'est pas à son nom. J'ai dû lui refuser l'accès alors parce que c'est pas le sien.
D'autres abonnés ne se font pas refouler à l'entrée puisqu'ils ne viennent même plus à la salle. À la fin de son cours, Daniel, le prof de pilates, fait les comptes.
Nous étions 12 personnes ce matin au cours de pilates et de stretching. Et généralement, on était, avant que tout ça arrive, nous étions à 20-25. Facile.
Situation d'autant plus critique que janvier, c'est normalement le mois des bonnes résolutions où les salles de sport se remplissent. Pour le gérant de cette salle et du réseau de clubs Magic Form, Christophe Mathéus.
C'est la cata, les gens fréquentent pas et s'inscrivent moins aussi. sachant que le mois de janvier, c'est le mois le plus fort après le mois de septembre. Mais on reçoit maintenant des demandes d'annulation, annulation d'abonnement, pur et simple. Concernant, et c'est bien expliqué, j'annule car je ne veux pas présenter de passe vaccinal.
Et cette salle parisienne est loin d'être isolée. Les 2500 clubs de fitness regroupés au sein de l'Union Sport et Cycle estiment avoir perdu 40% de leurs abonnés depuis le début de l'épidémie.
Thomas Giraudot, le Covid qui a brutalement interrompu le procès des attentats du 13 novembre. Après une grosse semaine de suspension, l'audience doit reprendre ce midi, à condition qu'aucune nouvelle contamination ne soit annoncée. La cour va donc relancer l'interrogatoire des accusés sur leur parcours jusqu'à l'été 2015, avec aujourd'hui Mohamed Ousmane, ce Pakistanais qui semblait programmé pour faire partie de l'un des commandos terroristes, mais il avait été retardé pendant son retour de Syrie. 75 jours avant le premier tour de la présidentielle, une course contre la montre s'engage pour les candidats qui n'ont pas encore tout leur parrainage, comme Nicolas Dupont-Aignan. Le souverainiste se présente pour la troisième fois et il l'assure, cette fois il ira jusqu'au bout, pas de ralliement à Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Élodie Forêt.
Dans son discret QG, pas une affiche à l'extérieur, Nicolas Dupont-Aignan part à tous les coups. Les finances, ce sera une campagne low cost, assume-t-il. Quant au parrainage...
Je les aurai. Et si j'en avais trop, je les donnerais. Mais j'en ai pas trop, malheureusement.
Au dernier pointage, 450 et une quête bien plus compliquée qu'en 2017 en cause. Le nombre élevé de candidatures nationalistes, la réticence des maires, l'isolement aussi de Nicolas Dupont-Aignan, lâché il y a encore quelques semaines par son attaché de presse et son directeur de communication. Un isolement que dénie le député de l'Essonne.
Moi je me sens pas seul, quand je regarde le soir, je fais ma petite vidéo sur Facebook. La dernière vidéo, on doit être à 2 millions de vues. Voilà, donc je me sens pas très seul.
Nicolas Dupont-Aignan qui pour exister entre Marine Le Pen et Éric Zemmour fait donc un pari, tout misé ou presque sur la lutte contre le pass vaccinal.
Le choix est très simple. Est-ce que Français, vous voulez devenir un robot ou est-ce que vous voulez rester libre ?
En espérant grappiller quelques points auprès des abstentionnistes, le premier tour réservera des surprises, veut croire Nicolas Dupont-Aignan. Avec une foi imperturbable en sa bonne étoile.
À l'étranger, la Coupe d'Afrique des Nations de foot endeuillée. Une bousculade hier soir devant un stade de Yaoundé au Cameroun a fait 8 morts, dont un enfant, et des dizaines de blessés. Les images ont marqué les esprits cet automne en Europe. Ces milliers de migrants dans le froid, bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Depuis, les arrivées ont nettement baissé, mais Varsovie n'a pas renoncé à son mur frontalier. C'est aujourd'hui que sa construction commence. 180 km de long, 5 mètres de haut pour un budget de 350 millions d'euros. En Pologne, les explications de Sarah Bakaloglu.
Pour Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, il s'agit de défendre la paix en Europe. Un mur qui constitue aussi un symbole politique pour Varsovie, selon le chercheur Piotr Buras.
Construire un mur est quelque chose de très visible, qui sert à prouver la volonté du gouvernement de résoudre la crise. Le pouvoir polonais a voulu se présenter comme l'unique acteur garantissant la souveraineté et la sécurité du pays. C'est clairement le message.
Les travaux vont se dérouler 24 heures sur 24 et doivent s'achever au mois de juin. Un mur auquel s'oppose fermement l'association d'aide aux migrants, Grupa Granica, qui dénonce, outre son coût faramineux et les conséquences pour les migrants, un manque de transparence. Monica Matus.
C'est comme une sorte de projet spécial du gouvernement avec une législation spéciale. La même qui a servi à établir des restrictions d'accès à la frontière. Il n'y a eu aucune consultation locale ou écologique. Le processus pour la construction s'est fait complètement en dehors de tout processus législatif classique en Pologne.
Un mur qui divise la population polonaise selon un sondage réalisé pour la radio RMF. Depuis le début de l'hiver, les tentatives de passage de migrants ont en tout cas chuté. Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
Toujours à l'est de l'Europe, dans le dossier ukrainien, les États-Unis accentuent encore d'un cran la pression sur la Russie. Washington place 8500 soldats en état d'alerte, prêts à venir renforcer les effectifs de l'OTAN au cas où. Joe Biden affirme être sur la même longueur d'onde que les Européens. Pourtant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on est pris de court par le ton alarmiste des Américains. Emmanuel Macron prône, lui, la désescalade. Il veut s'entretenir dans les prochains jours avec Vladimir Poutine.
Il est 7h39, New York, fin du 19e siècle. C'est le décor, Alexis, d'une nouvelle série événement.
The Gilded Age, à découvrir dès aujourd'hui sur OCS. Et ça devrait marcher, car on la doit au créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes. Il s'y connaît en succès. Voici donc cette nouvelle saga sur la guerre entre vieux et nouveaux riches dans les années 1880. Petit avant-goût avec Alexandra Akoun.
Des moutons. moutons en liberté dans Central Park au milieu des calèches et des promeneurs. Bienvenue dans le New York de 1882. Cet âge d'or, titre de la série qui, au sortir de la guerre de sécession, vit les États-Unis s'est développé comme jamais. On y suit l'arrivée de Marianne Brooke, orpheline débarquée de sa Pennsylvanie natale pour y vivre avec ses tantes, des représentantes de la haute société new-yorkaise dont elle va vite devoir apprendre les codes.
You belong to old New York, my dear, and don't let anyone tell you different.
Les fans de Downton Abbey reconnaîtront en un clin d'œil la patte de Julianne Fellowes, déferlante de costumes et décors somptueux, caméra qui virevolte parmi les domestiques affairés ou s'attarde sur des montagnes de petits fours. Mais ce qu'on nous raconte là, c'est l'émergence d'un monde nouveau, symbolisé par la famille Russell, nouveau riche spécialisé dans la construction de chemins de fer, que le Old New York regarde en se bouchant le nez, des affronts qui se paieront cher.
Life is like a bank account. You cannot write a check without first making a deposit.
Tandis que la jeunesse, elle, est prête pour le changement.
I don't accept that he's not fit to keep me company.
Pour ses débuts sur le petit écran, la fille de Meryl Streep, Louisa Jacobson, qui interprète Marianne, pouvait difficilement rêver mieux.
The Gilded Age, c'est à voir sur la plateforme OCS chaque semaine 24 heures après sa sortie aux États-Unis.
Merci Alexis Morel. Thomas Legrand.